Bonsoir. Processus de mise en place des nouvelles provinces en RDC. Le découpage territorial est arrivé à son terme ce week-end avec le démembrement de la province de Bandundu. Désormais, la RDC passe de 11 à 26 provinces. Quels sont les défis qui attendent de ces nouvelles provinces? Nous en parlons avec Maître Soudi Alima Sikimputu. Il est expert en décentralisation. Bonsoir, Maître Soudi Alima Sikimputu.
Bonsoir.
Israël Moutala, il est journaliste, analyste politique et économique. Bonsoir, Israël Moutala.
Bonsoir.
Et professeur Jean-Pierre Mouéboua, il est professeur à l'Université catholique du Congo. Il a beaucoup travaillé et publié sur le processus de décentralisation en RDC. Bonsoir, professeur Jean-Pierre Mouéboua.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Amorcé le 11 juillet, le découpage territorial est arrivé à son terme samedi dernier avec le démembrement des Bandundu, désormais scindés en trois provinces. En une semaine, la RDC compte maintenant 26 provinces. Du coup, ce découpage administratif amène avec lui des réajustements dans les secteurs de la justice, les régies financières et les forces de sécurité. Explication de Jacques-Yves Molima.
Pour déjà s'y conformer, deux ordonnances présidentielles signées le 14 juillet dernier réglementaient et réorganisaient la police nationale et la direction générale de migration des DGM. En effet, les 26 provinces de la RDC ont été dotées à la PNC des commissaires provinciaux et leurs adjoints, à la DGM des directeurs provinciaux et des adjoints. Ce réajustement devrait l'être également et c'est le défi qui reste à relever dans les autres secteurs. Il s'agit premièrement dans les secteurs de la justice. Il faudrait penser à des cours de tribunaux, notamment des cours d'appel dans les différents chefs de ces nouvelles provinces. Cela d'autant plus que les élections approchent et amènent avec elles les contentieux électoraux. Il ne faudra pas qu'avec un contentieux électoral enregistré à Bouta dans la province du Bazouélé, qu'on ait à recourir à la cour d'appel de Kisangani, désormais chef-lieu d'une autre province, la Tchopo. Il faut également réajuster les directions provinciales des régies financières, la DGDA, la DGI, la DGRAD, pour ne citer que cela, mais également tenter d'encadrer les différents bureaux de direction des recettes provinciales, à l'instar des DGRPO en province orientale. Enfin, l'on devrait également réajuster les commandements dans l'armée. Ces nouvelles provinces devraient être dotées chacune d'un commandement militaire, comme c'est le cas dans la police.
Merci Jacques-Yves Molima. Comment les populations des provinces démembrées accueillent l'avènement de leur nouvelle province? Nous allons dans l'ex-province du Katanga. Elle est démembrée en quatre nouvelles provinces, les Haut-Katanga, les Haut-Lomami, les Tanganyika et les Lualaba. Si certaines personnes saluent avec joie cette nouvelle configuration du Katanga, d'autres par contre évoquent des problèmes liés notamment au manque d'infrastructures dans certaines nouvelles provinces et au faible budget du pays. Ils l'ont dit au micro de Jean Gandou.
C'est très bien. Alors, la constitution a été respectée. C'est une bonne chose. Les provinces ont été rapprochées des habitants. Mais ce qu'il fallait faire auparavant, c'est d'améliorer d'abord les infrastructures. Prenez les provinces comme celle du Lualaba ou celle du Tanganyika, du Haut-Lomami, où si on doit placer 26 ou 30 divisions, ça va poser énormément des problèmes. Combien de temps il a fallu à la ville de Kindu pour qu'il y ait des infrastructures viables et fiables? Il ne faudrait pas que ça soit la même chose dans les nouvelles provinces.
Nous sommes très contents de ce démembrement parce que nous pensons que ça va amener un développement dans notre ancienne province du Katanga. Mais si seulement ce démembrement est fait avec l'idée du développement, mais s'il y a des idées politiques derrière ce démembrement, nous pensons que ça n'ira jamais de l'avant. Nous devrons avoir des grands managers et des gestionnaires capables d'amener une politique du développement. Dans le cas contraire, nous aurons des difficultés à relancer l'économie katangaise et aussi congolaise.
Je ne pense pas qu'avec 8 milliards, ces budgets-là, chez nous au Katanga, ce qui arrive, c'est 6%. Est-ce que les 6% sera éclaté en 4?
Merci à Jean Gandou qui a réalisé cet élément. Maître Soudi Alima Sikimputu, vous êtes expert en décentralisation. Depuis le week-end dernier, la RDC compte 26 provinces. Comment analysez-vous ces passages de 11 à 26 provinces?
Merci beaucoup pour la parole. Je salue d'abord tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en ce moment autour de cette discussion aussi importante pour la vie de la nation. Et je crois que le découpage avant d'arriver aux détails que je viens de suivre, il faudra d'abord qu'on commence par la mise en place des institutions elles-mêmes provinciales. Parce que, ne perdons pas de vue que la décentralisation, au regard de notre constitution, elle est politique aussi au niveau provincial. Et donc, il y a un défi à relever dans les délais. Effectivement, nous sommes déjà hors délai légal. Et Dieu merci, nous y allons quand même, malgré que le temps n'a pas pu permettre à ce que tout ceci soit fait dans les délais légaux tels que prescrit la loi de programmation. Mais, alors, il y a la question de la convocation d'abord des assemblées, des sessions extraordinaires des assemblées provinciales, des nouvelles assemblées provinciales. Il y a le défi de la réorganisation de ces assemblées-là qui viennent donc, qui proviennent des anciennes assemblées qui étaient unifiées. Et maintenant, ils se sont subdivisés au prorata des nouvelles provinces. Il y a le défi de l'élection des nouveaux gouverneurs, les gouverneurs intérimaires qui vont gérer, étant là jusqu'aux élections en cours. Évidemment, vous avez suivi l'analyse de la radio Capi sur la mise en place des autres services, ainsi de suite. Si vous vous souvenez, nous avions engagé à l'époque le débat sur la question des détails sur l'actif et le passif que la Commission devait présenter au niveau des assemblées provinciales. C'était entre autres de voir qu'est-ce qui devait déjà être fait, qu'est-ce qui existait déjà au niveau des anciennes provinces et qu'est-ce qui devait déjà être fait au niveau de tous les services qui organisent l'État au niveau des provinces. Il y a des services centraux qui sont déconcentrés, qui devaient automatiquement suivre, comme l'a fait d'ailleurs le président de la République sur certains services. Mais ça ne se limite pas là. Il y a l'administration publique. On doit avoir autant de divisions qu'il y a dans chacune des anciennes provinces. La police, le chef de l'État l'a fait. L'armée, je crois, la réforme de l'armée avait déjà tenu compte de cet élément lors de la dernière mise en place. Il y a la question de la justice. Parce que la justice, elle ne peut pas attendre. Tout doit suivre immédiatement. Et tout ce qu'il y a comme entreprise publique, ainsi de suite. Au-delà de tout ça, il y a un autre défi majeur à relever. À l'époque, nous pensions que la loi devait prévoir ça en amont, avant de déclencher le mécanisme. C'est les infrastructures minimum pour le fonctionnement des institutions provinciales. Et ça, c'est un problème sérieux qui va immédiatement se poser, parce que la loi dit qu'il faudra qu'il y ait un programme commun que le pouvoir central pourra maintenant commencer à mettre en œuvre pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place des infrastructures minimum au niveau de chaque nouvelle province. Voilà l'analyse faite. Évidemment, nous sommes déjà dedans et nous encourageons, mais il y a beaucoup de défis à relever.
Voilà, vous avez évoqué un certain nombre de défis, notamment la justice. On a suivi ces reportages de Jacques-Yves Molima, qui estime qu'il faudrait installer des tribunaux de paix, et cela devrait se faire, n'est-ce pas, urgemment, parce que ce sont ces juridictions qui connaîtront les contentieux électoraux. Les élections, c'est d'ici quelques mois. Vous pensez qu'on sera à mesure de relever ces défis?
Non, je crois que, il a parlé d'un tribunal de paix, il faudra qu'au niveau de chaque nouvelle province, il y ait une cour d'appel. Qu'il y ait une cour d'appel, et qu'au niveau de toutes ces nouvelles entités-là créées, qu'il y ait des tribunaux de grande instance, selon des circonscriptions qui pourraient être définies par l'autorité compétente. Et moi, je crois que, sans cour d'appel, par exemple, je ne vois pas comment on peut aller résoudre les contentieux électoraux au niveau de ces provinces-là. Parce que la première institution installée au niveau de la province, ce sont les institutions politiques provinciales qui sont des justiciables de nature devant la cour d'appel. Ça, c'est un fait. Il y a la question des entreprises publiques, même pour le pouvoir central. Il ne peut pas avoir des ressorts dévolus anciennement, par exemple, au district, alors qu'il y a maintenant des provinces, donc on doit avoir des directeurs provinciaux.
c'est une gymnastique qui doit être faite, qui ne se limite pas seulement à la nomination. Tout doit suivre, les infrastructures pour accueillir ces nouvelles autorités-là, de tous ces services. Il y a la question de chefs de division, par exemple, tous les services déconcentrés des administrations centrales. Le nombre qu'il y a dans les anciennes provinces, c'est le même nombre qui doit être dupliqué, bien qu'il y a d'autres divisions qui, en réalité, au regard de la mise en œuvre de la décentralisation et de la répartition des compétences dévolues à chaque palier au niveau de la Constitution, il y a des divisions qui doivent disparaître. Mais la pratique est que chaque fois qu'on crée un nouveau ministère, même si c'est un ministère qui est une compétence exclusive de la province,
merci, M. Soudi.
On crée un secrétariat général et automatiquement on crée une division, ce qui est une entorse grave dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation.
Merci, M. Soudi. Israël Moutala, je rappelle que vous êtes journaliste et analyste de politique économique. La RDC passe de 11 à 26 provinces. Votre réaction par rapport à cette réforme majeure?
Merci de la parole. J'aimerais tout de suite préciser d'abord que faisons d'abord une différence entre le processus de découpage, de démembrement de provinces. Nous passons de 11 à 26 et la décentralisation. La décentralisation, là, c'est par rapport aux prérogatives, aux compétences.
Au transfert de pouvoir.
Au transfert de compétences, transfert de pouvoir que l'État concède à d'autres entités publiques. À d'autres entités publiques avec qui elle partage certaines compétences de manière concurrentielle avec d'autres où ses compétences, elle délègue une partie de ses compétences. Donc ici, les 11 provinces qui existent encore dans l'imaginaire congolais étaient déjà décentralisées, mais sauf qu'elles n'exerçaient pas pleinement leurs prérogatives.
Il y avait un problème de transfert des responsabilités.
Il y a toujours ce problème de transfert de compétences. Donc je parle là en matière de santé, où c'est une compétence exclusive aux provinces. Je parle en matière d'éducation, où c'est une compétence exclusive des provinces. Je parle aussi en matière d'agriculture notamment. Ce sont des demandes de compétences exclusives de provinces. Il y a d'autres compétences concurrentes avec l'État.
Ça, c'est par rapport à la décentralisation.
Là, c'est par rapport à la décentralisation.
Parlons maintenant du découpage.
Donc, là, il y a un autre problème. Par rapport au découpage, c'est vrai, aujourd'hui, nous passons de 11 provinces à 26. Et on peut tout dire de cette réforme qui avait été voulue, dont la finalité était d'accroître qualitativement et quantitativement l'offre de services de l'État par rapport à ses administrés. Donc, c'est ce souci-là de rapprocher l'administration des administrés qui avait conduit justement à ces découpages. Alors, c'est une option qui avait été prise dans une constitution, dans l'actuelle constitution, depuis 2006, qui avait été adoptée par référendum. Mais il ne vous échappera pas quand même qu'il a fallu attendre à peu près, aujourd'hui nous sommes en 2015, donc soit à peu près 9 ans pour voir un commencement justement de la matérialisation de cette disposition constitutionnelle. Donc, la première remarque, que le temps de la mise en œuvre de cette réforme est un temps suspect, parce que nous sommes justement à la veille des élections générales. Donc, plusieurs y voient justement l'affaiblissement de certains candidats politiques. C'est là qu'il est sorti, notamment dans les dires des personnes qu'on a interrogées, notamment au Katanga. Alors, deuxième observation, c'est que on peut s'attarder sur le fait que cette réforme n'a pas été bien planifiée. Et donc, il y a beaucoup de précipitations. Il y a des problèmes d'ordre logistique, parce que toutes ces provinces là-bas, il faudra de lois par rapport au personnel qu'ils doivent engager. Il y a des déficits, il y a des défis en termes matériels, on l'a dit ici. Beaucoup de provinces n'ont pas des infrastructures viables. Il y a un problème sur le plan comptable, sur le plan patrimonial. Parce que tout ce qu'avaient hérité les chefs-lieux ou les autres provinces démembrées était la contribution de tous les contribuables des ex-provinces. Mais alors, quand on démembre, à qui appartient tel bien, à tel autre bien? Donc, pourtant...
Parce ce que travail a été fait par les différentes commissions.
Non, ce travail n'a pas été fait parce qu'aujourd'hui, c'est tous les patrimoines, par exemple, vous voyez par exemple, à la ville de Lubumbashi, tous les édifices, c'est l'impôt de tous les Katangais, par exemple, pour les entretenir, les routes et tout ça. Ça a été un effort. Donc, le travail du patrimoine n'a pas été fait. Donc, même ici à Kinshasa, le travail du patrimoine n'a pas été fait. Je rappelle ici aux Kinois que, par exemple, la résidence des GLM qu'occupe le chef de l'État n'est pas un bien de l'État. C'est le bien de la ville de Kinshasa. Mais qu'il n'y a pas encore eu ce travail pour inventorier les biens de l'État et les biens de la ville pour qu'on fasse une dissociation. Parce que c'est ces deux personnes morales différentes, distinctes. Ça veut dire que le patrimoine de l'un n'est pas à confondre avec le patrimoine de l'autre.
Alors, après ces observations, quels sont les défis qui attendent ces nouvelles entités?
Donc, le plus grand défi, c'est d'abord le défi de la cohésion nationale. Ça veut dire que il faudrait que cette décentralisation justement soit bien encadrée en termes notamment justement de en matière électorale, parce qu'on va procéder justement à l'élection de nouveaux gouverneurs et tout ça. J'aimerais que c'est un processus assez délicat. Je n'aimerais pas qu'on puisse justement ici jouer sur les antagonismes tribaux. Donc il y a ce défi de la cohésion de la cohésion nationale, il y a ce défi à part les défis de la cohésion nationale.
Par rapport au défi de la cohésion nationale, on se rappelle les débats, n'est-ce pas, qui a entouré la mise en place de ces nouvelles provinces. Les uns disaient que les conditions n'étaient pas réunies pour initier une telle réforme, d'autres pensaient que, étant donné que cela est consacré par la Constitution, il fallait y aller. Parce que vous parlez de la cohésion nationale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va se poser justement ces problèmes de cohésion nationale parce qu'il n'y a pas eu apparemment consensus par rapport à la mise en place de ces nouvelles provinces?
On peut tout dire, mais cette réforme n'a pas été conduite de manière professionnelle parce que quand vous regardez les principaux instruments de l'État qui chiffrent l'action de l'État, qui est le budget, il n'y a aucune ligne budgétaire par rapport à toutes les nouvelles charges qui découleront de ce découpage. Et vous allez voir par exemple que effectivement les institutions, notamment judiciaires, en termes de cours d'appel, en termes de tribunaux de paix qui devaient exister dans chaque territoires ne sont pas là. Donc, les défis sont là. Mais ça veut dire que, mais maintenant, nous sommes devant un fait accompli. Faisons en sorte, justement, que ce fait accompli ne se transforme pas en chaos généralisé où on va créer des rois télé à gauche et à droite. Et donc là, il faut en appeler, justement, à la maturité des uns et des autres pour que nous préservions l'unité du Congo et sa diversité culturelle et ethnique. Et donc, il faut des garde-fous en termes en termes, il faut brandir la menace publique, en termes de ça veut dire que, voilà. Mais le problème, c'est que on a parfois l'impression que la façon dont on va convoquer justement les assemblées provinciales qui vont élire, et il y a déjà des jeux politiques et politiciens qui se font. Et alors là, c'est une autre période de revanche.
Merci, professeur Jean-Pierre Mbouvois. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo. Vous avez beaucoup travaillé et publié sur le processus de décentralisation en RDC. La RDC, c'est maintenant 26 provinces. Votre réaction?
Mais personnellement, je suis très content de constater que finalement nous entrons dans cette réalité-là. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la décentralisation a été voulue d'abord comme une stratégie de développement, une autre façon de développer le pays. Jusque-là, notre pays a travaillé, a conçu le développement à partir du sommet, à partir de Kinshasa, à partir d'ici. Mais maintenant, on donne aux provinces la possibilité de pouvoir se charger du développement de leur population. Ça, c'est important. Moi, je crois qu'il faut quand même saluer ces pas-là qui est finalement franchi. Et désormais, les défis, pour moi, ce sont des défis qui reviennent d'abord à ces personnes qui doivent animer ces provinces. Donc, il faut que ces personnes, n'est-ce pas, prennent la mesure de leurs responsabilités désormais. La population le regarde. Et donc, ces autorités qui doivent animer les provinces désormais doivent, n'est-ce pas, se comporter comme tel. C'est comme ça que la mise en place des institutions politiques provinciales est une priorité. Il faut que ces provinces disposent des assemblées provinciales, qu'elles aient des gouvernements, avec des animateurs connus qui ont leurs responsabilités pour faire le travail. Parce que c'est ce travail-là qu'on attend maintenant de voir. On travaille avec les provinces dans la configuration actuelle, mais ces provinces savaient qu'elles allaient se démembrer. Et donc, les opérateurs politiques sont supposés, n'est-ce pas, s'être quand même préparés à cette idée-là. Mais comme on l'a fait avec les assemblées provinciales, lorsqu'on les a mises en place, il va falloir, n'est-ce pas, former les personnes qui vont aussi jouer les rôles au niveau de ces nouvelles assemblées. Hein, il faut former ceux qui doivent animer les services de l'Assemblée provinciale, les administratifs qui sont là-dedans. Donc il n'y a pas que les députés, parce qu'on l'a fait aussi pour les provinces actuelles. On a appelé les gens, on les a formés, on a fait des renforcements des capacités. Ce travail-là, il faut le faire. Même si les députés provinciaux qui vont travailler maintenant, ce sont les anciens députés provinciaux qui vont déjà se mettre au travail, qui sont supposés aussi déjà avoir été un peu formés, même si nous savons que les résultats dans différentes provinces, en termes de lois, des édits qui sont produits, c'est un autre problème. Hein? Mais en fait, ces gens-là sont déjà députés provinciaux. Maintenant, ils doivent se regrouper selon la nouvelle configuration et travailler. Mais la population n'attend pas. La population est là. Elle a des problèmes concrets. Et lorsqu'on a pensé qu'il fallait justement faire ce découpage, faire ce démembrement, l'idée était quand même que la nouvelle formule permette de rendre plus efficace les services à la société.
Voilà, vous avez parlé des animateurs qui seront désignés pour, n'est-ce pas, diriger ces nouvelles provinces. Là, c'est des hommes, n'est-ce pas, des êtres humains. Mais il y a aussi un autre facteur important, c'est les moyens, n'est-ce pas, qui doivent être mis à la disposition, n'est-ce pas, de ces personnes pour leur permettre de booster le développement de leur province. Ça, c'est un défi majeur. On a parlé des défis budgétaires. Comment on va arriver à relever ces défis?
Vous savez, dans notre pays...
Parce que jusque-là, même les budgets que nous avons, c'est pour les 11 provinces. Hein. On n'a pas prévu dans ces budgets les 26 provinces.
Hein. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Mais dans notre pays, on évolue souvent comme ça. Je crois que chaque peuple, il y a une mentalité dans ce peuple-là. Il y a une façon de faire. Dans notre pays, je crois que nous fonctionnons comme ça. Étant donné que ces provinces sont là, c'est à ces provinces maintenant, n'est-ce pas, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Parce que l'État, n'est-ce pas, le pouvoir central, a la charge d'aider ces provinces à se mettre en place. Hein, les pouvoirs centraux à la charge de les aider. Et les commissions qui sont allées travailler à travers ces provinces avaient cette tâche-là, de pouvoir penser aux questions d'infrastructure, comment ces provinces, les nouvelles provinces vont effectivement fonctionner. Et chaque fois qu'on a démembré une province, ils ont dit qu'ils étaient satisfaits de commencer maintenant le travail. À tout cas, chaque fois que j'ai entendu les députés provinciaux intervenir, hein, sur Okapi notamment, je vois que il semble être pressé de commencer dans la nouvelle configuration.
Professeur, et sur le plan des finances publiques, les réajustements des finances, n'est-ce pas, s'imposent, parce que l'article 171 de la Constitution stipule que les finances du pouvoir central sont distinctes des finances provinciales. Et il faudrait bien donc bien déterminer les limites des compétences entre les différentes régies nationales et les régies provinciales. Et comment faire pour éviter qu'il y ait chevauchement, qui est empiètement entre ces différentes régies.
Bon, en tout cas, par rapport aux régies, je crois que là, au moins, on est facilité par la structure actuelle. C'est une structure administrative. Nous avions déjà au niveau des régies, DGI, DGRAD, DGDA, des structures régionales ou provinciales. Ces structures-là, pour le moment, c'est ce qui était au niveau du district qui devient, en fait, la province. Et donc, dans ce sens-là, chaque régie financière doit s'organiser pour fonctionner. Mais administrativement, je crois qu'il y avait déjà des structures qui descendaient jusqu'au niveau des districts communs. des districts qui deviennent pratiquement dans la plupart des cas des provinces. Et donc dans ce sens-là, je pense que il y a ces nouvelles entités auront déjà ces unités-là qui vont fonctionner. Mais j'ai entendu la semaine passée les problèmes qui s'est posé des députés provinciaux qui sont déjà allés intervenir pour que l'argent ne parte plus dans les chefs-lieux actuels. Et j'ai aussi entendu que les conseillers du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur a dit que c'était normal. Donc il ne fallait plus transférer l'argent dans les anciens chefs-lieux. Et donc si l'argent peut déjà maintenant rester au niveau de ce qui était des districts, qui dans la plupart des cas deviennent des provinces, je crois qu'il y a quand même quelque chose sur place qui peut faire qu'il fonctionne. Mais je crois que l'une des premières choses que ces nouvelles provinces vont devoir faire, c'est de se doter d'une structure qui va pouvoir mobiliser les recettes, les ressources.
Merci, Maître Soudi. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Je vous appelle depuis la ville de Bukavu, dans la province du sud Kivu. Les grands défis pour ces nouvelles provinces et le choix des gouvernants ayant une capacité managériale et unificataire. Car si le premier gouvernant ne prime pas un modèle de gouvernance favorable au développement de chacune de ces provinces, il est à craindre que l'avenir de ces dernières soit comparable à celui des autres. Les grands défis pour l'État, c'est la mise en œuvre des institutions politiques et administratives capable de rendre visible l'existence de la province, puis l'aspect psychologique des gouvernés qui doivent s'adapter à cette nouvelle reconfiguration territoriale.
Voilà, là, il rejoint le professeur Mbouebois. Il dit que le premier défi, n'est-ce pas, c'est les choix des gouvernants qui ont une capacité managériale. Maître Soudi, votre réaction.
Merci beaucoup. Je crois que c'est un peu difficile. Je ne peux que me rabattre à la politique de renforcement de capacité. Parce que le choix du gouvernant, le mode choisi par la Constitution et nos lois de la République, c'est un mode qui se réfugie totalement des configurations politiques. Ce sont des politiciens qui sont élus. Ce ne sont pas des techniciens ou des experts en gestion de questions provinciales ou quoi qui sont élus. Et donc vous pouvez vous retrouver avec des analphabètes à la tête. Tout simplement parce qu'ils sont populaires ou ils sont ceci, majoritaires dans ceci ou cela. Et donc, il faudra absolument qu'il y ait une politique d'accompagnement, de renforcement de capacité qui puisse permettre à ce que ces animateurs-là qui sont élus, évidemment, on peut trouver des gens outillés, comme nous le constatons aujourd'hui dans la plupart des provinces. Et ça peut arriver aussi qu'on se retrouve avec des gens qu'il faut absolument renforcer en capacité ou encadrer. Donc, pour répondre à la question de notre ami, c'est des soucis que la population doit avoir et donc le travail doit commencer en amont. Comme ce sont des élections au second degré, il faudra absolument que les choix des députés provinciaux soient plus ou moins rationnels. Et la population a le temps de vérifier cela, je ne sais pas. Et c'est eux maintenant qui vont élire les autres animateurs, notamment les gouverneurs de province, les vice-gouverneurs, de qui proviendront le reste du gouvernement provincial. Voilà un peu ce que j'ai comme élément de réponse à notre ami.
Oui, vous dites que les choix se basent sur les critères politiques. Avec cette nouvelle configuration, ne pensez-vous pas qu'il y aura des nouvelles alliances qui vont se constituer, hein? Parce qu'avec les 11 provinces, en fait, la majorité au pouvoir avait toutes les 11 provinces, gérait toutes les 11 provinces. Maintenant qu'il y a une nouvelle configuration, est-ce que vous pensez que l'opposition peut s'organiser pour gérer certaines provinces?
Non, moi j'ai une autre lecture. J'ai une autre lecture parce qu'il y aura effectivement certaines alliances contre nature, tout simplement parce que presque toutes les assemblées sont des vieilles assemblées provinciales. Ils ont tous déjà expiré leur mandat. Et donc ce qui va se passer, c'est des gens qui risquent de se servir, donc ils s'organisent, s'il n'y a pas un bon suivi, chaque groupe va essayer de lire le gouverneur de son, de l'intérimaire de son choix qui puisse permettre de gérer sans soi.
Allô, maître Soudi? Apparemment, la ligne s'est détériorée, oui. Israël Moutana, nous avons pour vous une question qui vient de Kinshasa.
C'est maître Papi Kassema à Kinshasa. À mon avis, les défis qui attendent les nouvelles provinces sont multiples, à savoir la résolution des conflits fonciers et communautaires, la vulgarisation des lois y afférentes et la sensibilisation de la population, de peur que cela vienne renforcer les tribalismes, les régionalismes et les népotismes qu'on a pourtant déplorés. Sur le plan politique, il est inadmissible que les nouveaux gouverneurs soient élus par les anciens députés provinciaux qui pourtant n'ont aucune légitimité actuellement. Sur le plan de l'administration de la justice, hormis la construction des infrastructures y afférentes, l'on doit recruter les nouveaux magistrats et promettre, le cas échéant, les anciens qui seront affectés aux nouveaux cours, les tribunaux ainsi que les parquets.
Isabelle Moussala, votre réaction?
Ma réaction, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette décentralisation n'est pas un modèle de planification. Ça fait désordre, ça fait brouillon, et donc là-dessus, parce que je pense que tous les préalables n'ont pas été remplis. Je parle ici, notamment, je fais allusion ici notamment à la caisse de péréquation pour essayer de balancer les déséquilibres provinciaux. Ça veut dire, vous voyez par exemple que la province de l'Ituri et celle du Haut-Uele en province orientale, ils étaient très enthousiastes à devenir de province. C'est parce qu'ils comptaient sur quoi? La province du Haut-Uele compte sur la manne qui bat l'Igold, une société aurifère, voilà. Donc, le pactole sera facilement distribué. Ituri, il y a une autre société, il y a des sociétés aurifères.
Il y a
aussi le pétrole. Bref, mais quand vous voyez les autres provinces qui sont enclavées, qui n'ont pas d'infrastructure, bref, le fait qu'on les ait démembrées aujourd'hui, ne va pas leur donner plus de moyens de se développer. La question de développement, d'abord, c'est une question de moyens. Or, ici, en passant de 11 à 26, on a réduit la cagnotte. Ça veut dire qu'on n'a pas plus d'argent qu'hier. On en a moins, qu'on doit diviser entre plusieurs. Et donc, quand on disait que le défi qui était là-bas, c'est d'abord un défi de planification en termes des infrastructures, en termes du personnel d'appoint notamment, le personnel politique, il y a des charges. C'est tout ça. Donc, le développement à la base, oui. Ça veut dire que les nouvelles provinces vont hériter des mêmes problèmes que les anciennes provinces. Rien n'a changé. Les logiciels politiques est le même. La gouvernance est la même. Et donc, si aujourd'hui, même si on installe des nouvelles cours d'appel dans les nouvelles provinces, mais on déplore la même justice qui est corrompue, qui est inefficace. Et bref, qu'est-ce qu'on découpe? On découpe, on subdivise les mêmes tares. Et donc, du point de vue qualitatif, jusque-là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc,
c'est ce que je dis. Ça, c'est le débat actuel. Il y a ceux qui pensent qu'il faut découper les provinces, même s'il n'y a pas d'infrastructure, mais il faut découper ces provinces. Et ce sont les nouvelles institutions qui seront mises en place qui vont créer ces infrastructures. Tandis qu'il y a une autre logique selon laquelle il fallait commencer d'abord par mettre en place un minimum d'infrastructures.
On y est, de toute façon, on y est. Si on avait dit par exemple, voilà, donc donnons-nous planifions, donc ça veut dire qu'à l'horizontale, on met de l'argent à côté, infrastructures à gauche et tout ça. Bah, mais là, on est devant un fait accompli, tant mieux. Mais le fait accompli va tout simplement remonter en surface tous les problèmes qui existent, problèmes d'accès à l'eau, d'accès à l'éducation. C'est pas parce que vous devenez une nouvelle province que poum, par magie vous créez de la richesse. Et vous créez de la richesse. Vous allez lever l'impôt où, vous allez le répartir comment. Bref, les politiques publiques, vous les mettez en œuvre comment. Bref, c'est ça. C'est vrai qu'on a découpé l'ancien Kivu en trois provinces, mais enfin, vous pensez que la province du Maniema aujourd'hui est développée par rapport à quoi? C'est la même pauvreté, bref. Et donc, nous sommes là, nous avons un problème de gouvernance globale, et les tares de la gouvernance globale vont déteindre sur la gouvernance locale. Et donc, c'est trop facile de dire que au moyen de la décentralisation, du découpage, on va atteindre le développement, ou rapprocher les administrés de l'administration. Et donc, le problème est un peu plus complexe, mais puisque nous y sommes, on va voir que d'ici une année, d'ici deux ans, on fera le bilan. On va on va voir qu'on va se buter à d'immenses difficultés. Parce que pour d'autres députés, par exemple, provinciaux, ils ont du mal déjà à rejoindre leur fief. Et donc, voilà, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas tout ça. C'est vrai, on va dire que, voilà, le fait qu'ils sont maintenant une province, une entité autonome, ils vont résoudre ce problème-là. Mais ils vont résoudre ça avec quels moyens?
Voilà, et sur le plan politique, parce que, bon, là, la logique qui s'impose dans ces pays, c'est que quand on fait les choix des animateurs, on tient compte d'abord des critères politiques. Et vous pensez que, avec cette logique-là, on pourra avoir des animateurs qui pourraient être en mesure, n'est-ce pas, de faire face à ces nouveaux défis qui se présentent?
Non, ça veut dire que d'abord, ils seront provisoires. Mais je pense que la majorité actuellement s'organise pour contrôler les nouveaux gouverneurs. J'ai vu, selon certaines sources me disent, par exemple, que les députés du Katanga ont pris leur titre de séjour dans les bureaux de services de sécurité, c'est ce qu'on me laisse dire. Bon, voilà, ça veut dire qu'on essaie quand même de contrôler les provinces. Les provinces, ils seront contrôlés, ils sont contrôlés quelque part. Et donc, je pense pas que le pouvoir est assez stupide. Ça veut dire que jusque-là, les députés provinciaux sont conditionnés pour que la majorité présidentielle garde la main. C'est des bonnes guerres. Et donc, l'opposition peut aussi s'organiser pour essayer de récupérer deux ou trois provinces pour se mettre en situation le moment venu quand les élections provinciales vont se dérouler. Mais je pense que il y aura peut-être un petit aperçu un petit rapport de force qui va s'établir entre l'opposition et le pouvoir à l'occasion de ces élections extraordinaires que vont organiser les assemblées provinciales.
François Mbouva, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, Sud Kivu.
Robert Romain de Bukavu, Sud Kivu. C'est une très bonne chose de voir aujourd'hui les provinces de la RDC passer de 11 à 26. Cependant, dans toutes ces démarches, je pense que le défi majeur qu'il faudrait absolument et en toute priorité relever, c'est le défi politique et sécuritaire pour sauvegarder à jamais l'unité nationale de la RDC. Sinon, il ne serait pas du tout facile de relever les autres défis, notamment sociaux, économiques, etc., qui attendent les nouvelles provinces de la RDC.
Oui, professeur Mbouva.
Mais je crois que il a raison, l'auditeur a raison, d'autant plus qu'il vit à l'Est. Nous savons comment cette partie de notre pays a souffert des temps de guerre, tant d'atrocités. C'est normal. Mais la sécurité, ça c'est encore la responsabilité de l'État. Donc le pouvoir central est là pour s'en occuper. Ce ne sont pas les provinces qui vont venir résoudre les problèmes de sécurité, les problèmes de défense du pays, etc. Donc là, il n'y a pas de problème. Que le pays soit aujourd'hui découpé ou pas, ça reste la responsabilité de l'État. Donc les autorités de l'État ont encore cette charge-là de veiller sur l'unité du pays, sur la sécurité. Donc ils ne vont pas, être distraits par les processus de décentralisation. Mais tout à l'heure, il y a eu la question d'infrastructure. Je voudrais quand même revenir là-dessus. Vous savez, dans notre pays, c'est bien de dire c'est la décentralisation, c'est le découpage qui va poser problème. Mais en réalité, si vous regardez actuellement, les districts dans notre pays fonctionnaient, dans la plupart des cas, tels que les colonisateurs réalisaient la situation. Même là, on dit qu'il y a un peu d'infrastructures. Ce sont les infrastructures de l'époque coloniale. Donc, qui sont devenues des infrastructures vieilles, qu'il faut refaire. Donc, on cesse de parler des infrastructures comme si là où il y avait les districts avec des infrastructures, ça, c'est vraiment viable. Non! Il faut qu'on apprenne à construire ces infrastructures. Regardez aujourd'hui, on a inauguré l'hôtel du gouvernement. Après combien d'années dans notre pays que un gouvernement pense construire là où les ministres vont travailler? Pendant des années, on préfère se disputer les petits bureaux. Les petits bureaux, tous les ministères qu'on a toujours eu fonctionnent dans ce qui existait depuis toujours. Alors vous voyez, c'est une mauvaise mentalité. Mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé de construire. Et aujourd'hui, les ministres vont travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est cette approche qu'il faut avoir.
Et sur le plan politique, comment vous répondez qui répondez-vous à ceux qui pensent que les députés provinciaux, n'est-ce pas, qui seront chargés de désigner les nouveaux gouverneurs, eux-mêmes n'ont plus de légitimité et donc ils n'ont plus qualité, n'est-ce pas, à faire ces choix-là.
Ça, c'est un point de vue. Ils n'ont pas de légitimité par rapport à quoi ? Ils ont été élus et jusque-là, on n'a pas organisé d'autres élections. Ce n'est pas leur problème. Donc, c'est la CENI qui doit organiser les élections. Et à ce moment-là, la légitimité va partir. Aujourd'hui, on dit qu'ils n'ont pas de légitimité comme Maïno. Ils ont été élus. Hein, c'est eux qui sont nos représentants. Ils ont encore leur droit de faire le travail jusqu'au jour où on va organiser les élections. C'est un problème d'information. La légitimité, c'est le fait que nous, les citoyens, nous avons donné mandat à des gens. Nous avons voté pour eux. Nous avons dit, voilà, c'est vous les députés. Ces gens sont là, ils attendent. Les mandats sont déjà dépassés. Ils ont fait pratiquement les doubles. Mais ce n'est pas leur problème. Ça, c'est le problème du gouvernement qui doit donner à la CENI les moyens pour que la CENI organise ses élections. Et à ce moment-là, nous aurons de nouveaux animateurs qui auront notre propre légitimité. Donc, leur légitimité est intacte. Ce n'est pas le nombre d'années qui va déranger cette légitimité, même si nous vivons cela. Donc, les députés, ce sont nos représentants. Ils sont là, ils sont légitimes.
Oui, Maître Soudi, vous avez suivi Israël Moutala qui a estimé qu'il y avait un problème de planification, n'est-ce pas, dans la mise en place de ces nouvelles provinces. Maintenant que nous sommes devant un fait accompli, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour essayer de rectifier le tir?
Je crois que ce qu'il faut faire, c'est de relever le défi majeur du financement de cette décentralisation générale, en fait compris les nouvelles provinces. Le cas particulier des nouvelles provinces, c'est leur viabilité pour des provinces qui auront difficile à décoller d'elles-mêmes. Et on a beaucoup parlé des questions des infrastructures, et il n'y a pas que ça, parce que si, par exemple, nous prenons des provinces qui sont totalement enclavées, comme cela a été dans l'expérience de la province du Maniema, qui tend à décoller aujourd'hui, il leur faudra beaucoup de temps. D'abord, pour ne fût-ce qu'avoir le bureau où travailler. Vous avez suivi, je crois que c'est pas dit que le professeur qui a parlé d'anciens bureaux du district qui sont des vieilleries de l'époque coloniale. Aujourd'hui, ce sont des institutions provinciales où la loi dit qu'on doit nommer au plus des ministres, mais la plupart, l'expérience nous révèle qu'on nomme des ministres, et au-delà de 10 ministres provinciaux, on nomme des secrétaires, c'est pas du gouvernement, qui ont rang des ministres. Et au fil, on se retrouve avec 20 personnes qui ont rang des ministres provinciaux. Et tous ces gens-là, avec l'Assemblée provinciale, le bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau du gouverneur de province, ne fût-ce qu'en commençant par ça, il y a déjà un problème.
Merci, Maître Soudi, j'ai considéré ça.
On devait commencer par ces éléments-là pour mettre en place les autres. Mais comme cela est déjà fait, il faut relever les défis du financement, de cette décentralisation, mais aussi appuyer rapidement la question des infrastructures.
Merci, Maître Soudi, j'ai considéré ça comme votre conclusion. Israël Moutala, que faut-il faire pour rectifier les tirs?
Bon, je pense que rectifier les tirs, je pense que ça viendra avec la nouvelle, le budget de la, les budgets, la loi de finances 2016. Je pense qu'il doit y avoir une cagnotte, justement, pour essayer de viabiliser ces institutions en termes d'infrastructures, en termes de frais de fonctionnement, pour qu'elles aient l'air des institutions plus ou moins normales. Et juste un petit mot, par exemple, l'hôtel du gouvernement qui a été construit. Voilà encore un exemple, justement, de la non-planification, parce que si tu étais planifié, tant mieux. Mais c'est ça le problème, c'est que nous refusons. Le développement, c'est une vision. Il ne faut pas subir le développement. Il faut le voir loin et puis justement mettre en place les mécanismes financiers, logistiques et tout ça qui accompagnent la vision que vous voyez. On va découper. Dans 3 ans, on met à côté une cagnotte d'autant et on arrive. Mais pas là comme ça, mais déjà faire quoi.
Merci, professeur Mboua. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier les tirs?
Pour moi,
est-ce qu'il ne faut pas procéder comme la province de la Mongala, n'est-ce pas, qui cherche à élaborer une feuille de route et qui doit régir la gouvernance de cette nouvelle entité?
Qu'on mette d'abord les nouveaux animateurs ensemble et que ces animateurs prennent les responsabilités. Vous verrez, ils vont se débrouiller. Ils vont commencer quelque part. Ils vont commencer par construire leur maison. Ils vont commencer par où ils vont travailler. Ce sont les hommes politiques. Donc, il faut le volontarisme politique. S'il y a la détermination, je pense que beaucoup de choses peuvent déjà évoluer.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jacala qui était à la technique, Alain Hirung, Kéline Kouté, Mary Franklin Luchaka, sous la supervision de Léonard Moulamba, la présentation Guy Maté. Merci et bonsoir de programme sur Radio Capital.